Théologie fondamentale, Père Philippe, 23 février 1984, Saint-Joseph.
Le don de prophétie requiert-il une certaine sainteté? Au sens strict, non. En grâce chrétienne, oui. Parce que, vous voyez, c'est ça qu'il faut... C'est bien comme question de la poser... Si je prends l'analyse de saint Thomas, je suis dans une perspective de théologie scientifique qui analyse la grâce, qui analyse les charismes et qui montre la diversité de la finalité de la grâce et de la finalité des charismes. Et qui montre que par le fait même, on peut avoir le don prophétie. Saint Thomas dit dans le De Veritate, je crois qu'il n'a pas repris cette expression dans la Somme, mais dans le De Veritate, où il y a tout un aspect sur le don de prophétie, je n'ai pas le temps de le reprendre avec vous maintenant, mais question 12, pour ceux qui s'intéressent, ce n'est pas traduit, donc c'est en latin, bon effort. Alors, dans la question du De Veritate, question 12, saint Thomas dit que pour être un bon prophète, il faut avoir une bonne intelligence. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont une bonne intelligence sont prophètes, hein, comprenez bien. C'est pas réciproque, n'est-ce pas? Mais pour avoir le don de prophétie, il faut avoir une bonne intelligence. Dieu se sert, autrement dit, de l'intelligence humaine par le point de vue du charisme de prophétie. Et pas nécessairement la sainteté. Mais, ceci, c'est l'analyse. Pour regarder concrètement le point de vue de la grâce chrétienne, il faut alors regarder dans le traité du Christ. Et dans le traité du Christ, saint Thomas montre le lien qui existe entre la plénitude de grâce du Christ et les charismes. C'est ce qu'il ne faut jamais oublier. Oui. Et c'est pour ça que de temps en temps, j'ai entendu dire plus d'une fois, « Oh, saint Thomas n'a vraiment pas compris ce que c'était que les charismes. » Attention, avez-vous lu la question du Christ? C'est à propos du Christ où saint Thomas montre que la grâce chrétienne étant une plénitude de grâce, va impliquer normalement des charismes. Alors, il faut faire attention. Il ne s'agit pas de dire que le don de prophétie requiert la sainteté. Non. Mais il s'agit de dire que normalement, les charismes vont avec la grâce sanctifiante. Normalement, en terre chrétienne. Ce n'est pas lié essentiellement. Mais en terre chrétienne, il y a un lien. Un apôtre a normalement des charismes. Pas nécessairement le charisme de guérison des maladies. Mais il peut avoir le charisme du sermo sapientiae. Et le charisme du sermo sapientiae, ça fait moins de bruit que de guérir des maladies. Mais c'est quand même beaucoup plus important. C'est de pouvoir parler avec précision sur les mystères de la vie chrétienne. Et saint Thomas reconnaît que de pouvoir parler avec clarté et netteté sur les mystères de la vie chrétienne, ça relève du sermo sapientiae. Avoir une prédication qui soit convaincante, c'est-à-dire une prédication qui touche les cœurs, comme dit les Actes des Apôtres, qui pince le cœur. C'est comme ça qu'a donné la traduction hostie. J'aime bien cette traduction. Ils ont eu leur cœur pincé. On voit très très bien. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Alors, avoir une prédication qui pince le cœur, ça relève des charismes. Des charismes de l'apôtre. Et c'est plus immédiatement relié au charisme de l'apôtre, vous voyez, que le don guérison des maladies. Puisque c'est le corps, alors que la prédication est en premier lieu la conversion de l'âme. C'est très important de comprendre qu'en terre chrétienne, et pour ça il faut regarder, si on a le temps, nous le ferons, en regardant dans le traité du Christ. Parce qu'alors, on comprend beaucoup mieux la position de saint Thomas. Saint Thomas, dans une théologie scientifique, analyse. Il essaie de préciser le mieux possible le commodo non sit du mystère. Comment le mystère n'est pas, puisqu'on ne sait pas savoir ce qu'est le mystère. Mais on peut essayer de comprendre le commodo non sit pour préciser ce qu'il est. Mais il nous échappe, on ne connaît pas la quidité du mystère, puisqu'autrement il ne serait plus un mystère. Donc il nous échappe comme mystère. Mais nous pouvons préciser le plus que nous pouvons, et c'est le propre de la théologie scientifique, de chercher l'intelligibilité. Mais le théologien de théologie scientifique sait très bien que l'Église, c'est l'épouse du Christ, et que l'Église vit de la grâce chrétienne, et que la grâce chrétienne, c'est une alliance en plénitude de grâce où certaines distinctions vont demeurer comme distinctions, mais n'impliqueront pas des séparations. Au contraire, il y aura des liens. Et c'est ce que je crois qu'on peut dire entre la prédication qui normalement relève de la grâce, puisque le prédicateur doit être témoin de la vérité, et donc implique la grâce. Pour prêcher normalement, il faut être en état de grâce, pour être témoin de la vérité, comme pour dire la messe. Il faut avoir ce désir profond d'être en état de grâce. Le prophète, il prophétise pas quand il le désire. Un prophète qui dit, ah, attendez, venez me voir à 11h du matin, c'est à ce moment-là qu'ordinairement je prophétise. Il ne peut pas dire ça. Tandis qu'un directeur de conscience peut dire, venez à 11h du conscience, j'ai la conscience un peu plus... Je suis un peu plus limpide à ce moment-là qu'à 2h de l'après-midi, c'est un peu plus vague, alors je serai moins clair. Pour un cours de théologie, on peut dire la même chose. Il vaut mieux pas mettre les cours à 2h, il vaut mieux faire du sport à 2h. C'est quand même mieux, n'est-ce pas, que de faire de la théologie à 2h. Parce que post-chiboum, c'est un peu plus... Les émanations sont moins spirituelles. Elles viennent d'en bas et non pas d'en haut. N'est-ce pas ? Alors donc, on peut préciser ça quand il s'agit, causalité, quand on n'est qu'aux secondes. Comme professeur, on n'est qu'aux secondes. Tandis que prophète, on est instrument. On ne peut pas savoir. Sauf si la 13e Vierge a donné un rendez-vous. On est, alors ça c'est différent. Et si le Saint-Esprit vous a donné un rendez-vous. Le Saint-Esprit a dit, demain ce sera... entre 11h et midi. Très bien, les foules viennent à ce moment-là pour écouter le prophète, n'est-ce pas ? Mais c'est toujours un petit peu dangereux, il faut faire un petit peu attention. Il ne faut pas courir après les prophètes, après les charismes. Il ne faut pas courir après les charismes. On doit désirer la grâce sanctifiante. Mais les charismes, il ne faut pas courir après. Il faut demander très souvent à la Vierge Marie et à l'Esprit Saint ce qu'il désire. Parce que si on court après les charismes, on risque d'avoir des déceptions énormes et de confondre un petit aspect de psychologie humain, psychologie des groupes, et puis l'aspect propre de l'Esprit Saint. Il ne faut pas nier les charismes, ce serait très mal de les nier. Il ne faut pas les nier, il faut les reconnaître. Mais il ne faut pas courir après. C'est toute une question de prudence. La prudence regarde les signes et la foi regarde la parole de Dieu. Alors, continuons. On a encore une autre question. Le don de prophétie appartient-il plus à celui qui fait la prophétie ou à celui qui sait l'interpréter ? C'est celui qui sait l'interpréter. Le prophète qui annonce quelque chose sans rien comprendre, c'est la prophétie la plus imparfaite. Et celui qui interprète, il est plus parfait dans la prophétie que celui qui n'interprète pas. C'est normal, puisque quand même le don de prophétie a quelque chose à faire avec l'intelligence. Alors connaître la signification, c'est normal. L'intelligence doit connaître la signification. Tandis que quand vous parlez en prophète, en langue, sans rien comprendre du tout, ou bien quand vous dites, c'est curieux, je reçois cette parole, je ne comprends pas du tout ce que ça veut dire. Vous n'y comprenez rien. Et vous transmettez. Très bien. C'est la prophétie la plus imparfaite. L'ânesse de Balaam. Ça peut aller jusque-là. Alors, vous n'y comprenez rien du tout. Tandis qu'au contraire, quand vous êtes interprète, vous comprenez. Joseph est bon prophète quand il interprète les songes. Alors, Article 2, on l'avait déjà vu, je crois, la révélation prophétique se fait-elle par l'intermédiaire des anges ? Je reprends. Le pseudo-Denis, alors disons tout simplement le Denis, parce qu'il n'est pas pseudo, il a existé, écrit « Les visions divines parvenaient à nos glorieux pères par le moyen des vertus célestes. » Cappadocien, Denis, 7e siècle, 6e et 7e. Les dernières découvertes, 6e et 7e siècle. Parce qu'on dit pseudo à cause du grand Denis, vous comprenez, Denis l'Aréopagite. C'est bien évident, saint Thomas croyait que c'était Denis l'Aréopagite. C'est pour ça que saint Thomas a une telle vénération pour Denis. Parce qu'il croyait que c'était le grand Denis. Alors maintenant, c'est sûr que ce n'est pas le grand Denis. Saint Thomas s'est trompé là-dessus. Mais, donc on peut avoir moins de vénération pour Denis. Vous voyez, c'est un peu, l'autorité de Denis est moins forte. Parce que Denis, c'est un néoplatonicien qui a baptisé le néoplatonisme. Il l'a bien baptisé, d'une façon vigoureuse. Alors, le pseudo-Denis écrit « Les visions divines parvenaient à nos glorieux pères par le moyen des vertus célestes. » Or, il parle ici des visions prophétiques. La révélation prophétique se fait donc par l'intermédiaire des anges. Voici le corps de l'article. D'après l'apôtre, ce qui vient de Dieu se fait avec ordre. Et voyez l'Apocalypse, on voit très bien que l'Apocalypse se fait par l'intermédiaire d'un ange. Alors cet ange, est-il un ange ? Est-il la reine des anges ? Demandez au Saint-Esprit. D'après l'apôtre, ce qui vient de Dieu se fait avec ordre. Or, c'est une loi de l'ordre divin, selon Denis, de gouverner les êtres inférieurs par les êtres intermédiaires. Or, les anges ne tiennent-ils pas le milieu entre Dieu et les hommes ? Ils participent en effet plus que les hommes à la perfection et à la bonté de Dieu, et c'est la raison pour laquelle les illuminations et les révélations divines parviennent de Dieu aux hommes par le moyen des anges. D'autre part, la connaissance prophétique dépend de l'illumination et de la révélation divine. Il est donc manifeste que les anges en sont les agents intermédiaires. C'est facile à comprendre. Vous voyez, ça ne va pas plus qu'une donnée, plus qu'une opinion. Je crois qu'on peut dire que c'est qu'au fond, quand même, une doctrine constante de l'Église. Ça fait partie de tout un patrimoine, si vous voulez. Je n'oserais pas dire que c'est de foi. Non, sûrement pas. Mais ça fait partie d'un patrimoine, ça fait partie d'une tradition. Denis représente là une tradition. Évidemment, une tradition assez néoplatonicienne, et les néoplatoniciens, comme tout le monde sait, aiment de multiplier les intermédiaires. Un néoplatonicien est joyeux dans la mesure où il multiplie les intermédiaires. Tandis qu'un occamien... il est joyeux dans la mesure où il diminue les intermédiaires. C'est toute la différence qui existe entre les deux. Alors, la charité qui rend l'homme ami de Dieu est une perfection de la volonté sur laquelle Dieu seul peut agir. Mais la prophétie est une perfection de l'intelligence et sur celle-ci, l'ange peut aussi exercer une action, comme on l'a vu dans la première partie. Le cas est donc différent. Les anges n'interviennent pas pour la communication de la charité. Parce que la charité est donnée directement par la plénitude de grâce du Christ. Quelquefois par l'intermédiaire de Marie, si Marie est médiatrice de toute grâce, donc par l'intermédiaire de Marie, quelquefois par l'intermédiaire des saints, quelquefois par l'intermédiaire d'un prédicateur, quelquefois par l'intermédiaire d'un prêtre. Donc il peut y avoir des médiations. Quand il s'agit de la prophétie est reçue dans l'intelligence. C'est une perfection de l'intelligence. Or, quand il s'agit de l'intelligence, les anges peuvent intervenir plus facilement sur nos fantasmes. Les anges peuvent intervenir sur nos fantasmes. C'est comme ça que les bons anges peuvent nous donner de beaux rêves et des rêves prophétiques. Et c'est comme ça que les mauvais anges peuvent agir aussi sur nos rêves et nous donner des cauchemars. Là, c'est sûr. Les dons gratuits sont attribués à l'Esprit Saint en tant que principe premier. L'Esprit Saint est le donateur des dons gratuits. Il distribue pourtant ses grâces aux hommes par le ministère des anges. C'est à l'agent principal, en vertu duquel il agit, qu'on attribue l'œuvre de l'instrument. Or, le ministère peut être comparé à un instrument. Or, le ministre peut être comparé à un instrument. Voilà pourquoi la prophétie qui se fait par le ministère des anges est appelée divine. Parce que la cause principale est divine, donc elle n'est pas angélique. On ne dira pas que la prophétie est angélique, même si c'est par l'intermédiaire des anges. Parce qu'en dernier lieu, c'est Dieu qui éclaire, c'est l'agent principal. On ne dénomme jamais un effet par sa causalité instrumentale. On dénomme toujours un effet par le point de vue de la vertu de sa cause principale. Ça n'a pas beaucoup de difficultés, ça. Je crois qu'on peut prendre tout de suite l'article 3. La prophétie requiert-elle des dispositions naturelles? C'est ici que saint Thomas va parler de l'intellect. Vous voyez, si saint Thomas ne parle pas ici, il en parle sûrement dans le De Veritate, article 4. C'est très beau, parce que si vous avez un bon intellect, vous voyez, en faisant de la métaphysique, vous vous préparez à être prophète. C'est merveilleux. On se prépare à être un collège de prophètes, de petits prophètes et j'espère de grands, n'est-ce pas ? Alors c'est merveilleux. La métaphysique, perfectionnement l'intelligence, permet à Dieu de se servir mieux de notre intelligence. Puisque la métaphysique purifie notre intelligence et lui permet de redécouvrir sa vigueur première, alors que les idéologies ankylosent l'intelligence et font que l'intelligence devient rampante. Et quand l'intelligence, à ce moment-là, n'a plus sa subtilité, n'a plus son ardeur première. Alors, voici la première objection. La prophétie s'accommode, en effet, aux dispositions du prophète qui la reçoit. Ainsi, au sujet de cette parole d'Amos, le Seigneur rugira de Sion. C'est beau, du reste. Hein, c'est d'Amos, ça. Amos, c'est le prophète terrien. Le Seigneur rugira de Sion. Saint Jérôme écrit, il est naturel que ceux qui veulent faire des comparaisons en prennent leurs termes dans leur cercle d'expérience ou dans leur milieu d'éducation. Par exemple, les matelots comparent leurs ennemis à des vents contraires et leur perte à un naufrage. Donc c'est tout le milieu dans lequel... C'est saint Jérôme qui dit ça. Donc, de même, Amos, qui fut berger, assimile la colère de Dieu au rugissement du lion. Maintenant, pour un berger, le rugissement du lion, gare, il arrive. Hein. Alors, on fait attention. Or, cette accommodation requiert en celui en qui elle se fait des dispositions naturelles. La prophétie exige donc des dispositions naturelles. Très intéressant, oui, ça c'est par rapport à l'exégèse. Hein. Très intéressant, cette remarque de saint Jérôme. Hein. Pour mieux comprendre si tel prophète était un homme de mer, était un homme de terre, eh bien les comparaisons seront différentes. Et alors on explique Amos de cette manière-là. Alors, vous voyez la réponse. Il est indifférent à la prophétie que la réalité prophétique. Donc, il est indifférent à la prophétie que la réalité prophétique soit exprimée par telle ou telle comparaison. C'est pour cette raison que l'opération divine n'apporte aucun changement à la manière de s'exprimer du prophète. La puissance de Dieu n'écarte que ce qui répugne à la prophétie. Très intéressant, vous voyez ça? Il est indifférent à la prophétie. Indifferens est ad prophetiam, quibus cumque similitudinis res prophetica exprimatur. Donc il est indifférent à la prophétie que la réalité prophétique soit exprimée par telle ou telle comparaison. Donc, c'est répondre directement. Qu'il s'agisse des rugissements du lion, qu'il s'agisse des vents contraires, parce que dans le cas, c'est la même analogie, ça n'a aucune espèce d'importance. Le Saint-Esprit est au-dessus des vents contraires et du rugissement du lion. Il est au-dessus de ce conditionnement du berger et du matelot. On peut être berger et être prophète, on peut être matelot et être prophète. Et alors évidemment, l'Esprit-Saint se sert des expériences que nous avons. C'est sûr. Ça explique beaucoup de choses pour les visions de la Très-Sainte Vierge. Ça explique beaucoup de choses. Vous avez remarqué les explications données. Alors, vous avez remarqué que c'était selon une certaine philosophie qui relève de Descartes, hein, ces explications données. C'est intéressant, du reste, c'est intéressant. J'avais à côté de moi quelqu'un qui disait « Mais sonnez pour qu'on fasse sauter ces pages, quand même !» Alors, vous voyez bien, il est indifférent à la prophétie que la réalité prophétique soit exprimée par telle ou telle comparaison. C'est pour cette raison que l'opération divine n'apporte aucun changement. Ça, c'est très important. Et ideo hoc, ex operatione divina, non immutatur circa propheta. C'est pour cette raison que l'opération divine n'apporte aucun changement à la manière de s'exprimer du prophète. C'est pas tout à fait ça, hein, la traduction. Il y a une petite glose. C'est pourquoi, il faut mieux traduire textuellement. C'est pourquoi, de l'opération divine, cela non immutatur circa prophetam, auprès du prophète, de ce qui est prophétisé, la chose prophétique. Dieu se sert d'un instrument et ne modifie pas l'instrument. Amos est un homme terrien. Bon, il se sert de ses comparaisons. Et Dieu ne va pas lui donner de nouvelles comparaisons. Dieu se sert de ça. Il se sert de nos expériences. Il les modifie pas. Et c'est là où l'exégète a des choses intéressantes à dire. Vous voyez ? Pour mieux mettre en relief ce que relève le conditionnement de la prophétie. La puissance de Dieu n'écarte que ce qui répugne à la prophétie. Tout ce qui serait contraire à la signification de la prophétie comme telle, alors la toute-puissance de Dieu se porte garant. Parce que dans la prophétie, Dieu se porte garant de la vérité de ce qui est révélé. Mais Dieu ne se porte pas garant des comparaisons, de la manière de parler, de la manière de dire, des images. Non, ça c'est pas prophétisé. Qui est prophétisé, c'est la signification. C'est très très important. Alors, deuxième objection. L'exercice de la prophétie constitue un degré plus élevé que celui de la science acquise. Or, de mauvaises dispositions naturelles empêchent l'exercice de la science acquise. Beaucoup, en effet, à raison de ces dispositions défectueuses, ne peuvent parvenir aux sciences spéculatives. Ut in pluribus, comme dit saint Thomas. Ut in pluribus manent in sensu. La plupart du temps, les hommes demeurent dans le sensible. Et c'est pour ça qu'il leur est interdit d'acquérir les sciences spéculatives. Très lucide, saint Thomas, à la suite d'Aristote, du reste. Il reprend exactement le même jugement. À plus forte raison, des dispositions naturelles sont-elles requises pour la contemplation prophétique? Réponse. L'exercice de la science à une cause naturelle. Or, la nature ne peut agir que s'il existe une disposition préalable dans la matière. Mais il n'en est pas de même pour Dieu qui est la cause de la prophétie. Dieu est libre à l'égard des dispositions. Dieu est libre. Ça ne veut pas dire du tout que Dieu les supprime. Parce que vous voyez, si vous mettez, c'est très amusant comme réponse. Selon la réponse, il ne change rien. Selon la réponse, il est libre. Et les deux sont vrais. Dieu est au-dessus du conditionnement du prophète. Et Dieu, en même temps, respecte le conditionnement du prophète. Et les deux choses sont pas contradictoires. Alors, troisième objection, de mauvaises dispositions naturelles entravent davantage qu'un obstacle accidentel. Or, la contemplation prophétique, vous voyez qu'on parle toujours de contemplation prophétique, hein. La speculatio prophétie, il ne dit pas contemplation, il dit speculatio. Je voulais voir si saint Thomas mettait vraiment contemplation. Or, la speculation prophétique se trouve, c'est pas tout à fait la même chose, or la spéculation prophétique se trouve compromise même par un empêchement accidentel. On lit en effet dans le commentaire de saint Jérôme sur saint Matthieu que durant les plaisirs de la chair, l'Esprit Saint refuse son assistance, même à celui qui paraît être un prophète. C'est plus difficile de prophétiser venez dans un bon repas. Il sent, saint Jérôme, bien plus encore, de mauvaises dispositions naturelles empêchent-elles la prophétie. Celle-ci requiert donc de bonnes dispositions naturelles. Il est vrai, répond saint Thomas, que de mauvaises dispositions naturelles pourraient mettre obstacle à la révélation prophétique. S'il n'y était porté remède, tel serait le cas de celui qui serait totalement dépourvu de sens naturel. Il va à l'extrême. Un handicapé mental. Est-ce que le Saint-Esprit peut s'en servir pour être un prophète? C'est difficile parce qu'il ne peut pas parler, vous allez me dire tout de suite. Donc alors c'est difficile. Il faudrait un miracle, il faudrait d'abord le remède. Un prophète peut aussi être détourné de sa fonction par une violente passion, comme la colère, la concupiscence charnelle, ou toute autre passion. Mais la puissance divine, qui est la cause de la prophétie, remédie à ces mauvaises dispositions naturelles. Alors, vous voyez que c'est intéressant à voir. Dans le De Veritate, je n'ai pas vérifié, mais je vérifierai pour être sûr, parce que la mémoire, c'est toujours une chose. Dans le De Veritate, saint Thomas dit que normalement, Dieu demande au prophète une bonne intelligence, et dans la somme, saint Thomas a l'air de Dieu. Non, pas si, pas tellement important. Saint Thomas a rencontré sans doute entre deux des prophètes pas très intelligents. Il a dû se dire que Dieu pouvait très bien servir de prophètes qui n'étaient pas très intelligents. Et ça arrive du reste. Quelquefois le Saint-Esprit fait ça. Au moment où le prophète est prophète, il dit des choses pertinentes. Puis quand ça s'arrête, ça peut arriver ça. Et pour mieux faire comprendre, vous voyez, le surnaturel, hein, quelque chose de surnaturel, le surintelligent, le méta-intelligent, n'est-ce pas, quelque chose qui met un peu plus. C'est toujours très net dans la somme. Hein. Saint Thomas met des choses. Ça, c'est très intéressant à faire. Un petit article intéressant à faire là-dessus. De l'évolution de saint Thomas, vous voyez, du De Veritate à la somme par rapport à ça. Petit truc, rien du tout, mais c'est intéressant parce que c'est quand même significatif. Il y a 10 ans entre les deux. Et saint Thomas ne revient pas en disant comme j'ai dit dans De Veritate, j'ai dit ça, mais maintenant, non, pas du tout. Il travaille trop vite pour faire ça. Article 4, la prophétie requiert-elle de bonnes mœurs? Alors, première objection, il y a des raisons de le croire. Il est écrit dans le livre de la sagesse de Dieu se répand à travers les nations dans l'âme des saints. Elle en fait des amis de Dieu et des prophètes. Or, la sainteté ne peut exister sans les bonnes mœurs et la grâce sanctifiante. Vous voyez ? Voilà la réponse à l'objection, mais c'est une objection à la question tout à l'heure. Hein. Alors, voyons tout de suite le corps de l'article. D'après saint Matthieu, à ceux qui disent « Seigneur, n'est-ce pas en votre nom que nous avons prophétisé ?» Il est répondu « Je ne vous ai jamais connu. » Or, le Seigneur connaît ceux qui sont ses amis, comme l'affirme l'apôtre à Timothée. La prophétie peut être, la prophétie peut donc exister dans ceux qui n'appartiennent pas à Dieu par la grâce. Donc, il n'y a pas de lien nécessaire. Voilà ce que ça veut dire. Il n'y a pas de lien nécessaire. Il n'y a pas un lien de conséquence, de cause à effet. Je ne peux pas dire, hein, vous êtes prophète, donc vous êtes un saint. Et les braves gens disent ça. Hein. Si par hasard vous avez prophétisé, hein, tout de suite, hein, si par hasard vous guérissez quelqu'un, oh, tout de suite, il est saint, parce qu'il prophétise, parce qu'il guérit. Pas toujours. Les bonnes mœurs peuvent s'étendre de deux manières. Dans leur racine intérieure, la grâce sanctifiante, par rapport aux passions intérieures de l'âme et aux actes extérieurs. Vous voyez bien, c'est très intéressant à voir comme parallélisme de ce qu'on peut comprendre ce que représentent les bonnes mœurs. Hein. Les bonnes mœurs. Bonitas morum. La bonté des mœurs s'entend de deux manières. Donc, il prend dans leur racine intérieure. Dans leur racine intérieure, c'est secundum interiorem eius radicem. C'est rare que Saint-Paul dit ça, parce que c'est intéressant ici. La racine intérieure. Et ici, la racine intérieure, c'est la grâce sanctifiante. Deuxièmement, par rapport aux passions intérieures. La grâce sanctifiante est surtout donnée pour que l'âme de l'homme soit unie à Dieu par la charité. Aussi saint Augustin écrit-il, « Celui auquel l'Esprit Saint n'est pas départi pour aimer Dieu et le prochain, celui-là de damné ne sera pas sauvé. Tout ce qui peut exister sans la charité peut donc se trouver sans la grâce sanctifiante. Et par conséquent, sans de bonnes mœurs. Or, c'est le cas de la prophétie. Hein, c'est net pour votre sainteté. C'est le cas de la prophétie. Celle-ci peut, en effet, se rencontrer sans la charité. En voici deux raisons. L'une est tirée de leurs actes. La prophétie relève, en effet, de l'intelligence, tandis que la charité perfectionne la volonté. Or, l'acte de l'intelligence précède celui de la volonté. Aussi l'apôtre, dans sa première épître aux Corinthiens, énumère-t-il la prophétie parmi les dons qui se rapportent à l'intelligence et qui peuvent exister sans la charité. Donc c'est net, ça. Un charisme peut exister sans la charité. C'est pour ça, faites attention. Vous pouvez parler en langue sans la charité. Tandis que vous ne pouvez pas entrer dans le recueillement de quiétude sans la charité. Vous ne pouvez pas garder le silence intérieur sans la charité. Saint Thomas nous dit qu'on ne peut pas assister à la messe avec un peu de ferveur, 5 minutes, sans qu'il y ait l'exercice des dons du Saint-Esprit. Autrement, on serait toujours distrait. Et on ne pourrait pas rester immobile pendant quelques instants. Là, ça requiert la charité. Tandis que la prophétie, non, la prophétie, non. C'est beau, hein, comme rectitude. Hein. C'est évidemment, c'est le fil à plomb. Dire sans dire, oh, mais il n'a pas compris. Il a très bien compris. Le don de prophétie peut s'exercer sans la charité. Le don de prophétie ne requiert pas la charité. Normalement, oui, mais regardez attentivement. Donc ce n'est pas parce qu'il est prophète qu'il faut le considérer comme un ami de Dieu. La seconde raison est tirée de leur fin. La prophétie est donnée en effet comme les autres dons gratuites en vue de l'utilité de l'Église selon ces paroles de l'apôtre dans la première épître, dans la même épître. La manifestation de l'Esprit est répartie à chacun en vue de l'utilité. La prophétie n'a pas directement comme but d'unir à Dieu la volonté du prophète, ce qui est la fin de la charité. Voilà pourquoi la prophétie peut exister sans de bonnes mœurs si on envisage la racine première de toute bonté morale, la grâce sanctifiante. Donc c'est assez net, hein. Si vous regardez d'une part le point de vue de la structure de la prophétie, les actes, et deuxièmement, si vous regardez le point de vue des actes, si vous regardez la finalité. Vous voyez que la prophétie n'est pas liée à la grâce sanctifiée. Elle peut exister ça. Alors, par rapport aux passions, si au contraire, nous considérons les bonnes mœurs par rapport aux passions de l'âme et aux actions extérieures, la malice morale. Sous cet aspect, peut-être un obstacle à la prophétie. La malice morale, sous cet aspect, peut-être un obstacle à la prophétie. La prophétie exige en effet une très grande élévation de l'esprit. Ad prophetiam requiritur maxima elevatio mentis. Maxima. La plus grande élévation de l'esprit. Donc, ça a mal de dire que c'est quand même quelque chose. Hein. La plus grande élévation de l'esprit. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Hein. Alors, si vous fréquentez le mystère de Dieu par la prophétie, il y a des chances que. La prophétie exige, en effet, une très grande élévation de l'esprit pour contempler les réalités spirituelles. Requiritur maxima mentis elevatio ad spiritualium contemplationem. En vue de la contemplation des choses spirituelles. La prophétie exige en effet une très grande onde. Or, à cela s'oppose la véhémence des passions ou la préoccupation désordonnée des réalités extérieures. Ainsi lit-on dans l'Écriture, au sujet des fils des prophètes, qu'ils habitaient avec Élisée. Menant ainsi une vie solitaire, ils n'étaient pas détournés du don de prophétie par les occupations de ce monde. Donc, vous voyez quel lien saint Thomas met par rapport aux passions. Le bonheur, c'est qu'ils viennent régler les passions. C'est nécessaire pour la liberté du prophète. Ce n'est pas une nécessité absolue, mais c'est normal. Par le bas, c'est nécessaire d'avoir des vertus pour que les passions inférieures soient éduquées. C'est nécessaire, ça. Autrement, on risquerait toujours de ne pas être suffisamment si vous voulez, suffisamment saisi, suffisamment pris par ce qui nous est communiqué, ce qui nous est donné. Alors voyons maintenant tout de suite l'objection, les objections. Alors, à la première objection, le don de prophétie est quelquefois départi à certains hommes pour éclairer leur propre esprit, en même temps que pour le bien des autrui, des autres. Ce sont ceux dans lesquels la sagesse divine descend par la grâce sanctifiante et qu'elle rend amis de Dieu et prophètes. Au contraire, il y en a qui ne reçoivent le don de prophétie que pour le bien d'autrui. Ils sont alors comme les instruments de l'action divine. Saint Jérôme écrit, prophétiser, faire des miracles, chasser les démons sont parfois autant d'actes charismatiques qui ne sont pas dus au mérite de ceux qui les produisent, mais ou bien ils révèlent du Christ dont on a invoqué le nom, ou bien ils sont accordés pour la condamnation de ceux qui invoquent ce nom, ou pour l'utilité de ceux qui les reçoivent et les entendent. Donc voyez ici cette chose intéressante que saint Thomas souligne. Il faut bien distinguer. Il y en a qui ne reçoivent le don de prophétie que pour le bien d'autrui. Alors à ce moment-là, ils sont proprement action, instrument de l'action divine. Au fond, on est parfaitement action quand ce n'est pas pour soi. Donc on voit comment saint Thomas précise cette question des bonnes mœurs. Il faut donc comprendre qu'au niveau de la racine, il n'y a pas de lien direct. Au niveau des passions, il y a un lien. Il y a un lien. Il faut que les passions soient maîtrisées. Alors, elles ne sont maîtrisées que par la prudence. On peut dire qu'il faut que ces passions soient maîtrisées et qu'elles soient maîtrisées par la prudence pour laisser plus libre l'action de l'Esprit Saint. Alors, seconde question. Les secrets ne sont révélés qu'aux amis, d'après saint Jean. Il aurait pu mettre Aristote aussi. Mais ici, c'est saint Jean qui passe devant. Ils sont révélés qu'aux amis. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Et regardez le commentaire de saint Thomas. Or, Dieu révèle ses secrets aux prophètes, comme on le dit dans Amos. Les prophètes sont donc les amis de Dieu, ce qui ne se peut sans la charité, et celle-ci suppose la grâce sanctifiante. Réponse. Commentant la parole citée de saint Jean, saint Grégoire écrit, en aimant les secrets célestes qui vous sont révélés, nous connaissons déjà ces secrets aimés, car l'amour lui-même est une connaissance. Jésus a donc fait connaître toutes choses à ses disciples, parce que délivré des désirs terrestres, il brûlait des feux du suprême amour. En ce sens, les secrets divins ne sont pas toujours révélés aux prophètes. Vous voyez donc, bien, c'est toujours la même chose, c'est que la ligne de la prophétie ne rejoint pas directement le point de vue de la charité. Il y a des intermédiaires, mais ça ne rejoint pas directement. Donc on ne peut pas dire, parce qu'il est prophète, il est saint. Vous pouvez dire au contraire, parce qu'il est saint, oh, de temps en temps, il doit prophétiser. Ça, je crois qu'on peut le dire. parce qu'il est saint, de temps en temps, il doit prophétiser. Il a un don de lire dans les cœurs. Ce qui est d'ordre prophétique. Alors, les méchants ne sont pas tous des loups ravisseurs. C'est la réponse, je ne dis pas l'objection. Mais seulement ceux qui cherchent à nuire au prochain. Les docteurs catholiques, dit en effet saint Jérôme, même s'ils ont perdu la grâce, sont appelés encore, certes, des serviteurs de la chair, mais ne sont pas pour autant des loups ravisseurs, car ils n'ont pas le dessein de perdre les chrétiens. Mais la prophétie étant destinée au bien d'autrui, il est manifeste que les faux prophètes ont ce mauvais dessein et méritent d'être appelés loups ravisseurs, car ce n'est pas dans ce but qu'ils ont reçu la mission de Dieu. Les mauvais prophètes sont donc plus terribles que les mauvais théologiens. C'est ça que j'avais dit.